Voilà, et ben, bienvenue à vous pour cette soirée autour de ce petit livre de Henri Lo, Pour une existence spirituelle, voilà, que vous pouvez trouver en vente au point d'accueil. Hein. Il y a un certain nombre d'exemplaires qui sont là. Alors, pour nous mettre sans attendre dans le thème de cette soirée, je vous propose d'en lire quelques lignes, qui sont les premières lignes du livre. C'est toute l'existence qui est appelée à devenir spirituelle. Telle est la proposition de ce livre. L'existence spirituelle est une existence comprise dans son unité, à la différence d'une vie en pointillé. Des références trop éclatées, des pratiques toujours discontinues ou sans cohérence exposent au vide. Comment bâtir dans ces conditions? Certes, la vie est faite d'hésitations, de tâtonnements, voire de reculs. Elle ne se déroule pas de façon linéaire, elle a ses échecs. Mais l'unité et la fragilité ne s'excluent pas l'une et l'autre. Le réel d'un homme n'est pas celui d'une pierre. La vie se fortifie dans la patiente liaison des jours. Ce qui s'oppose au spirituel, ce n'est pas la matière, le corps. Ce ne sont pas les choses communes, les passions ou les angoisses de la vie. Ce qui s'oppose au spirituel, c'est l'immédiateté. Voilà donc comment commence ce livre d'Henri Lo. Et ces quelques lignes, il me semble, en disent bien le projet. Introduire à l'expérience spirituelle non comme quelque chose d'extraordinaire, qui serait donc réservé à quelques privilégiés, mais comme ce qui permet de trouver une unité dans son existence et dans son histoire. Question que nous avons tous finalement en partage. Alors, Henri Lo s'engage dans cette direction en philosophe, aux prises avec des questions comme celles du temps et des rythmes de vie, du mal et de la décision éthique, aux prises également avec la question de Dieu. Et il enseigne ici au Centre Sèvres sur cette question. Henri Lo réfléchit aussi en croyant, mais jamais en cherchant à obliger à croire, mais au contraire en indiquant des lieux où cette question de Dieu peut être posée. Merci, Henri, pour cet ouvrage qui recueille les fruits d'un de tes champs de travail autour de l'expérience spirituelle et de la mystique. Et son succès en librairie montre qu'il répond à une attente. Pour en parler ce soir, Élodie Moreau, qui travaille au service culture du quotidien La Croix. C'est la recension que vous aviez faite de cet ouvrage qui nous a donné envie de vous inviter. Vous l'aviez intitulé Le sel de la vie chrétienne. Et vous parliez du livre d'Henri Lo comme d'une invitation énoncée de manière pudique et sans esbrouffe, capable de rejoindre l'expérience du lecteur avec bienveillance et en même temps appuyée sur une réflexion solide. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir ce soir, alors que les occupations ne manquent pas. Et puis, Michel Feydeau réagira aussi également au livre de Henri Lo. Il le fera aussi comme théologien, puisque Michel Feydeau enseigne dans cette maison, notamment sur la Trinité, et puis c'est un spécialiste des Pères de l'Église. Donc, merci beaucoup aussi, Michel, pour ta participation à cette soirée. Voilà, dans un premier temps, Élodie Moreau et Michel Feydeau nous partageront leurs impressions de lecture. Et puis après ça, Henri reprendra la parole. Et moi, peut-être que entre-temps, je vous lirai tel ou tel autre extrait du livre. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée.
Bonsoir à tous. En visite à Hervelay, que les Belges me pardonnent la prononciation de cette localité, en Belgique, en septembre 2010, l'ancien supérieur général de la compagnie, le père Adolfo Nicolas, fut questionné par un membre de l'auditoire qui lui posa cette question très directe. Je cite la question. Le charisme ignatien a-t-il encore un avenir en Europe où la présence de Dieu même est largement contestée? Sa réponse fut la suivante. dite en français avec un accent espagnol tout à fait charmant que je ne peux malheureusement pas reproduire, mais la vidéo est disponible sur YouTube et je vous invite à la regarder. Sa réponse fut donc la suivante. Je crois que le charisme ignatien est providentiel pour le moment que l'Église traverse. Il y a dans le monde le danger d'une globalisation de la superficialité. Le monde est devenu très superficiel. Nous avons beaucoup d'informations, mais moins de réflexion, moins de profondeur, moins de culture que par le passé. Cela se passe dans le monde, dans la société, mais cela se passe aussi dans l'Église. Je crois que ce serait très dangereux pour l'Église de devenir superficielle, parce que l'Évangile sans profondeur, on ne peut pas le comprendre. Fin de citation. Au cours de cette même conférence, Adolfo Nicolas invitait également à abandonner le jargon ecclésial, à ne plus employer des mots que plus personne ne comprend, à renouveler notre langage pour partager la fraîcheur toujours nouvelle de l'Évangile. Offrir de la profondeur sans jargonner, aller à l'essentiel sans tomber dans la superficialité, je crois que c'est le pari que le livre du père Henri Lot relève avec beaucoup de simplicité et de talent. Le talent d'être simple, le talent d'écrire court, à peine une centaine de pages, tout en restant profond, en ne perdant pas de vue l'essentiel. Et la réussite de cet ouvrage, je crois, est de ne pas être un résumé, mais une invitation, que dit bien le titre, pour une existence spirituelle. Je voudrais développer en trois courtes parties ce que je retiens de cet ouvrage, en essayant de montrer en quoi il me paraît répondre au besoin qui est le nôtre aujourd'hui, d'une parole simple et fraternelle, proposant le christianisme à tous d'une manière non superficielle. Et donc je voudrais successivement évoquer comment ce livre témoigne d'un christianisme bienveillant, d'un christianisme simple et d'un christianisme vigilant. Un christianisme bienveillant d'abord. Un christianisme qui n'est ni de surplomb, ni de raideur. Dans son style, la bienveillance s'exprime par la simplicité des mots, le recours à la raison commune, l'effort de ne pas être inutilement compliqué. Cette bienveillance s'exprime également, pour moi, par la faculté de comprendre ceux auxquels on s'adresse. Et c'est en ce sens que je lis le premier chapitre, intitulé « La spiritualité avec ou sans Dieu ?», chapitre dans lequel Henri Lot pose la question de la quête spirituelle dans le monde d'aujourd'hui, et dans laquelle il s'efforce d'entrer dans une compréhension intime de ce que nos contemporains mettent derrière le mot « si chargé », si flou et en même temps si essentiel par son omniprésence même de spiritualité. Il y a dans ces pages, donc dans ce chapitre, ce premier chapitre, une grande écoute de ce qui se vit dans cette référence non religieuse à l'idée de superficialité, définie par nos contemporains de différentes manières que vous rappelez, que vous cherchez à saisir, une vie de l'esprit distinguée du pôle matériel des préoccupations, une quête de liberté, une recherche de la paix de l'âme ou de l'esprit, une sagesse qui se cherche entre les impasses du matérialisme et de la religion. Dans ces pages, vous vous efforcez d'être à l'écoute de ce qui vibre dans le cœur et l'esprit de vos contemporains. Sans mépriser, sans disqualifier, vous prenez au sérieux cette spiritualité qui désigne, je vous cite, des expériences multiformes où l'homme s'ouvre à ce qu'il y a de plus grand en lui. Honorer son interlocuteur, c'est aussi honorer ses questions. Et ce livre, je le trouve teinté d'une longue expérience d'accompagnateur et d'enseignant par l'écho qu'on y trouve aux questions parfois informulées de l'homme d'aujourd'hui envers le christianisme. Il honore aussi les questions qui fâchent, les questions qui heurtent et s'attarde longuement, si l'on peut dire au regard de la brièveté de l'ouvrage, sur la question du mal, par exemple, dans le chapitre 4, en revenant au débat entre Leibniz et Voltaire, comme pour revenir au lieu de la fâcherie, au lieu de l'incompréhension, de la rupture entre le christianisme et la modernité. Je voudrais aussi souligner qu'il y a dans votre livre une façon toute particulière d'honorer votre interlocuteur, celle de ne pas tracer une limite a priori entre lui et nous, chrétiens, entre guillemets. Vous avez une manière d'interroger la foi qui ne soulève pas de frontières entre celui qui s'interroge peut-être pour la première fois et celui qui, ayant déjà adhéré, s'efforce de persévérer. Vous avez une manière d'évoquer des questions liées à la foi qui rapproche celui qui s'interroge pour la première fois en les reconnaissant également comme les nôtres. Beaucoup de thèmes que vous abordez, je pourrais citer la place de la fraternité, de la communauté, le rapport à l'avenir, les enjeux éthiques, l'expérience du mal, la question de l'adresse à Dieu, sont des points essentiels pour celui qui veut passer sous le porche de la vie chrétienne et commencer un itinéraire de foi. Mais ces questions sont aussi valables pour tout chrétien. Elles sont des lieux qu'on pourrait dire au travail, que l'on soit au début d'un itinéraire de foi ou déjà pérégrinant dans la vie chrétienne. Ces questions demeurent, elles restent les mêmes, même si elles prennent des teintes nouvelles au fil des années. Dans son dernier livre, Urgence pastorale, votre compagnon, le père Christophe Théobald, invitait, je le cite, à ne pas transformer l'amitié avec le Christ qui nous fait partager la « connaissance » entre guillemets de ce qu'il a entendu lui-même de son Père en savoir surplombant. Votre ouvrage participe de ce mouvement d'un christianisme qui cherche une fraternité nouvelle, renouvelée avec ceux qui sont loin. Un christianisme simple maintenant. Et je relis cette deuxième partie à la première parce que le christianisme est bienveillant aussi par sa simplicité. Votre ouvrage, je le regarde comme une épure, comme un dessin qui montre les lignes de force ou mieux les lignes de soutènement du christianisme. Il offre une charpente. Il conviendra ensuite au lecteur qui le reçoit de couvrir cette charpente de tuiles ou d'ardoise, d'y installer un Vélux ou une fenêtre en chien assis, une cheminée, voire même une girouette. Nous le savons, la vie chrétienne peut se parer de nuances diverses. Mais toute maison bien construite, qui veut offrir un vrai foyer pour ses habitants, constituer un lieu de vie, les abriter des vents et du froid, doit avoir une charpente, si possible, bien assurée. Votre livre donne cette charpente quand tant d'autres cherchent à donner des armures aux chrétiens d'aujourd'hui. Il montre les lignes de cette charpente chrétienne. Il va à l'essentiel, il rassemble l'essentiel, sans fioriture ni caricature. Or, la simplicité est aujourd'hui devenue nécessaire. Dans ce temps d'effondrement de la culture chrétienne, il va falloir apprendre à être simple, sans être simpliste, pour dire ce qu'est la foi chrétienne, ce qu'est une existence chrétienne, et ce petit livre nous montre la voie. Votre ouvrage tient implicitement compte des conditions nouvelles dans lesquelles se vit aujourd'hui le témoignage de la foi. Et je crois qu'il y a de la sagesse à avoir compris qu'on ne peut pas aujourd'hui encombrer une invitation à l'Évangile avec ce qui ne va pas à l'essentiel. Par sa forme, une centaine de pages, sans grande technicité dans le langage, les sources choisies qui paraissent pesées, le choix d'une économie des faits, vous proposez un livre léger mais solide, comme le simple bâton que les disciples sont invités à prendre pour la route. Votre livre tient aussi compte dans sa forme que notre époque manque de temps et que pour cette raison-là aussi, une certaine urgence de la simplicité s'impose. On pourrait aussi dire que cette simplicité de forme et de style est cohérente avec une simplicité de fond que vous soulignez comme étant un trait caractéristique de la vie chrétienne. Vous écrivez que la vie chrétienne est, je vous cite, « invite à vivre le présent dans la plus grande simplicité », qu'elle est, je vous cite encore, « une vie désencombrée de beaucoup de choses inutiles ». Pourquoi cela ne vaudrait-il pas dans le domaine de l'esprit et de la recherche philosophique ? On sent que votre livre a été passé au tamis d'un discernement visant à élire l'essentiel, et que des choses importantes, mais secondes, importantes, mais pour un temps, importantes, mais pour plus tard, ont été laissées de côté pour parvenir à se condenser. Cela demande sagesse et discernement parce qu'il n'est jamais facile de savoir ce qui, dans une invitation, doit rester pour le moment au second plan sans être tenu pour secondaire. Troisième point, un christianisme vigilant. Bienveillance et simplicité, c'était les deux traits que j'ai voulu relever, pourraient s'accompagner d'une forme de mollesse, d'inexactitude, d'un laisser-aller sur le fond, ou au contraire, d'une sécheresse. Un point est à relever, je crois, il est facile de faire court, mais sec, d'écrire court, mais au prix de tuer le désir d'aller voir plus loin. Ici, nous sommes au contraire en présence d'une proposition qui va à l'essentiel, mais sans saturer l'horizon, sans le boucher. Un essentiel qui ne comble pas, mais qui éveille, qui ne se prend pas pour l'horizon, mais qui le désigne. Dans cette dernière partie, j'aimerais souligner que dans cette simplicité même, votre invitation est vigilante dans sa manière de ramasser, plus que de résumer, d'unifier l'expérience chrétienne. Et cette vigilance, elle l'exerce vis-à-vis du contexte, en tenant compte du contexte nouveau de la foi aujourd'hui. Votre ouvrage tient ainsi plusieurs notes de fond, plusieurs thèses fortes, denses, que je souhaiterais pointer dans cette troisième partie. Tout d'abord, le rapport du christianisme à la spiritualité, question essentielle dans le contexte d'aujourd'hui. Pour vous, la singularité de la spiritualité chrétienne est justement, je vous cite, de ne pas en être une. Comprenons qu'avant d'offrir une réflexion éthique ou un mode de vie, des techniques de méditation ou une forme d'appartenance, la vie du chrétien est, je vous cite, la réponse d'un disciple à celui qui l'appelle, qui est à l'origine de sa vie et qui l'attend dans un avenir sans limite. Fermez la citation. Vous dites encore, le mot Dieu est un nom. On s'adresse à un nom, on l'invoque, on le prie de louange ou de supplication. On l'appelle, on dit « mon Dieu ». Dieu est une liberté appelante qui attend d'autres libertés. La reconnaissance du nom fait sortir de l'anonymat. Il n'en est pas de même lorsque l'on parle du sens, de l'absolu, de l'infini ou d'un principe originaire. Les notions s'étudient, elles peuvent inspirer. Le nom se révèle, il attend d'être confessé. Page 17. Je lisais récemment un autre livre d'un philosophe, court lui aussi, dense lui aussi, un chrétien de confession protestante, Didier Travier, qui écrivait, je le cite, « Seule la foi se reconnaît dans la forme dialogique, dans le tu de l'invocation et le tu de la vocation. Le chrétien ne dit pas forcément autre chose que l'athée, mais il le dit à et le reçoit de. » Fermez la citation. Cet extrait de l'ouvrage intitulé « Une confiance sans nom, essai sur la foi » à la page 9. Il est essentiel de remettre au premier plan cette dimension de rencontre, de dialogue, d'intimité partagée avec un autre qui est au cœur de la foi chrétienne et sans laquelle elle se dénature en système de pensée, en valeur, en discours de sens. Sans doute même peut-on aller un peu plus loin et dire avec Christophe Théobald dans « Urgence pastorale » que, je le cite, « Jésus ne nous met pas seulement face à Dieu, comme l'ont fait les prophètes, ceux de la Bible et du Coran, il nous donne accès à son intimité, à son intériorité abyssale, puisqu'il y est déjà lui-même. Voilà la différence chrétienne », pointait Christophe Théobald. Deuxième point de vigilance que je veux souligner, le refus du dualisme et de la superficialité. Ah, la précision bienvenue. Et bienvenue dans son articulation même. Refus du dualisme et refus de la superficialité. C'est en tenant les deux termes que cette proposition est intéressante et stimulante. Refus du dualisme, il ne s'agit pas dans l'existence chrétienne d'être clivé entre naturel et surnaturel, corps et esprit, ici-bas et arrière-monde, ni de tomber dans l'attitude de celui qui, pour s'assurer qu'il ne retombera pas dans les dualismes au nid, s'en tient à vivre à la surface, dans une immanence superficielle. Votre proposition est la suivante, je vous cite, c'est toute l'existence qui est appelée à devenir spirituelle. L'existence spirituelle est une existence comprise dans son unité, à la différence d'une vie en pointillé. Et plus loin, ce qui s'oppose au spirituel n'est pas la matière, le corps, ce ne sont pas les choses communes, les passions ou les angoisses de la vie qui s'opposent au spirituel, c'est l'immédiateté, celle des décisions, des réactions, des relations. Notons au passage la précision toujours nécessaire à rappeler tant elle traîne dans nos esprits que le spirituel ne s'oppose pas à la matière ni au corps. Mais remarquons aussi une note nouvelle dans votre proposition qui pointe un lieu de travail spécifique à notre époque, le rapport au temps. C'est une thèse forte pour aujourd'hui, à l'heure où il est si tentant de proposer une immédiateté, de se passer des médiations, de viser une efficacité dans tous les domaines, y compris le religieux. Tout l'intérêt de votre ouvrage est d'inviter non à l'immédiat qu'aime tant notre époque, mais à la présence. Votre refus de l'immédiateté s'articule à une insistance sur le moment présent. Vous nous aidez à penser un présent, une présence déployée, qui n'est pas une immédiateté, et c'est vraiment, je crois, le défi de notre époque. L'enjeu pour chaque chrétien est devenir une présence. Je vous cite, « Appelé à partager l'esprit de son Seigneur, le disciple est convié à vivre de cette présence pour être cette présence au milieu de tous. » Et vous nous renvoyez cette question, comment être présent à soi-même et aux autres jusqu'à se laisser saisir par une présence toujours plus grande. Pour cela, vous nous invitez dans le sillage de Simone Veil à reconsidérer attention, nos manières d'être attentifs. Être attentif, écrivez-vous, c'est s'arrêter, arrêter en soi beaucoup de choses, à chacun de les nommer, pour se tourner vers ce qui arrive. Troisième point de vigilance, une vigilance sur la dimension historique de la foi chrétienne. Votre insistance sur le non-immédiat suppose une revalorisation des médiations, une reconnaissance des médiations. Or, la première médiation de la vie spirituelle, c'est l'histoire dans laquelle et par laquelle nous recevons la transmission de la parole. D'où votre insistance sur l'importance de la dimension historique de tout itinéraire de foi. Et vous avez cette belle formule, beaucoup attendaient de Jésus l'absolu, il vint apporter l'absolu dans l'histoire par les voies de l'histoire. Quatrième point, une vigilance quant à la place de la raison dans la vie de foi. Là aussi, contre toutes les tentations dualistes, contre les tentations de la sainte ignorance, pour parler comme le politologue Olivier Roy, contre les méfaits de la religion sans la culture, vous invitez à l'articulation de la foi et de la raison. Car la foi peut être tentée de se construire un monde à part, rappelez-vous. Or, elle ne doit pas avoir peur de la raison. Non, la raison n'est pas une autorité critique orgueilleuse dont la volonté de maîtrise sur toute chose finirait par se substituer à Dieu. Au contraire, vous reprenez à votre compte la vision de la raison d'Eric Weil, voyant dans la raison une exigence de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Elle n'est pas une sorte d'assurance sur laquelle nous pourrions nous reposer, dit Eric Weil, pour dormir en toute tranquillité. Elle est ce qui nous tient en éveil, devrait nous maintenir en éveil. En bref, n'ayons pas peur de la raison. Cinquième et dernier point de vigilance que je souhaite relever, une vigilance sur le rapport du christianisme à l'éthique. Il est intéressant que vous renversiez dans ces pages le rapport habituel des chrétiens à l'éthique. Généralement, les chrétiens abordent les questions éthiques en prétendant, en souhaitant y apporter ce que les intuitions morales venues de leur foi leur font dire de l'homme et du respect de la vie. Une vie démocratique saine, d'ailleurs, devrait être en attente de cette contribution des croyants au débat commun, comme les derniers travaux du philosophe Jürgen Habermas l'ont mis en évidence. Mais votre proposition sur l'éthique ouvre un autre chantier, tout aussi essentiel, complémentaire de ce premier mouvement où la religion ou la spiritualité informe l'éthique. C'est le mouvement où l'éthique informe la religion. Et c'est avec beaucoup de sagesse, je trouve, que vous pointez le nécessaire aller et retour entre les deux domaines, pas seulement de la spiritualité à l'éthique, mais aussi de l'éthique à la spiritualité, si l'on peut dire. C'est une nouvelle perspective que vous ouvrez dans la mesure où les chrétiens, et spécialement peut-être les catholiques, ne se demandent habituellement que ce qu'ils peuvent apporter à la discussion éthique. Et c'est d'ailleurs bien dans cet esprit, par exemple, qu'ils comptent participer aux états généraux de la bioéthique qui s'ouvrent. Or, vous dites, la vie spirituelle a beaucoup à apprendre des exigences de la vie éthique. C'est votre proposition. Elle n'a pas seulement à inspirer la vie éthique. La vie spirituelle a beaucoup à apprendre des exigences de la vie éthique. Elle doit se défaire, dites-vous, de la prétention à la toute-puissance en acceptant le patient chemin des conditions de l'action. Il lui faut apprendre à rencontrer l'humanité en ces moments ordinaires et en ces moments de crise. Non seulement pour vous, la vie spirituelle appelle l'éthique, mais elle se nourrit de l'éthique. Elle y découvre des tâches, dites-vous, des combats, une attention vive à des personnes. Elle y rencontre aussi ses propres résistances, ses tentations, son péché, toutes les manières qu'elle a de se dérober à autrui. C'est une citation. Denis Vasse, jésuite et psychanalyste qui nous a quittés cette semaine, interrogé par Lacan sur ce qu'est la perversion, donna cette définition, dit-il à brûle-pourpoint. La perversion, c'est dire la vérité pour ne pas la faire. C'est avec cette définition en toile de fond que l'on peut, je crois, envisager l'écoute que la vie spirituelle doit avoir vis-à-vis de l'éthique, avec l'aide de la réflexion éthique, l'attention aux singularités, l'attention aux résistances, l'attention aux personnes, la vie spirituelle peut éviter le danger mortel qu'il y a à dire la vérité pour ne pas la faire. J'ai été trop longue, je m'en excuse, donc je ne veux pas rajouter une conclusion trop longue à cette petite intervention qui n'a voulu que pointer quelques aspects féconds de votre réflexion. Peut-être pour finir, je dirais que j'ai aimé ce livre parce qu'il est pudique, comme je l'avais écrit effectivement dans La Croix. Ce qui veut dire pour moi délicat, modeste, humble et prudent. Il est pudique en ce qu'il ne met pas la main sur le mystère de l'autre, avec ou sans majuscule, ni sur le mystère de Dieu, ni sur le mystère de l'homme qui lui est apparenté. Une invitation est quelque chose de personnel, et ce livre réussit à être personnel tout en restant pudique. Il ne nous encombre pas par une subjectivité envahissante, comme c'est malheureusement le cas dans bien des livres dits de témoignages. Ce livre est l'invitation d'un croyant, philosophe, à d'autres intelligences et d'autres cœurs, ce qui implique une élaboration en raison, une mise à distance, une argumentation, mais il reste une invitation où l'on sent résonner une parole singulière, habitée par une présence.
Merci beaucoup, Élodie Moreau, pour votre réaction au livre de Henri, où on sent le goût que vous y avez trouvé et où vous soulignez aussi, excusez-moi, et où vous soulignez aussi les enjeux de ce type de proposition et de cette tonalité que Henri Lowe a adoptée dans son ouvrage. Alors, je vous propose un deuxième petit extrait du livre qui jouxte un passage que vous avez lu d'ailleurs, Élodie. Voilà. C'est un extrait dans lequel Henri Lowe se propose de nommer un trait spécifique de l'expérience spirituelle chrétienne. La spiritualité chrétienne, ou l'expérience de la foi, ou plus exactement la voie chrétienne, certes, concerne une éthique de vie. La question du sens, la perspective du salut, toute dimension d'ouverture, une expérience de la présence ou encore celle de la mystique. Mais sa position est autre. Fondamentalement, elle consiste dans la réponse à quelqu'un. L'existence y est vécue dans sa globalité comme une réponse à. Tout ce qu'elle vit, dans son corps et dans son esprit, prend sens dans l'écoute d'un appel et dans la manière d'y répondre. Et cela change tout. Répondre à qui ? Répondre à Dieu. La question de Dieu et la question du sens ne sont pas identiques. Le mot Dieu est un nom. On s'adresse à un nom, on l'invoque, on le prie de louange ou de supplication. On l'appelle, on dit « mon Dieu ». Dans une relation qui n'entend pas le posséder, mais qui se dépossède au contraire dans cet appel. Dieu est une liberté appelante qui attend d'autres libertés. Voilà. Et bien là-dessus, je passe la parole à Michel Fédou.
Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole sur le livre de Henri Lau. Merci surtout pour l'invitation que ce livre constitue comme tel. Ce livre, est-il dit, page 7, invite chacun à rechercher les moyens d'une existence inspirée. Et le même mot se retrouve dans la conclusion. Je cite, « Ces pages ne sont pas un traité, elles n'exposent pas des principes, elles invitent. » Eh bien, une manière de répondre modestement à cette invitation, c'est de partager quelques impressions et réflexions que le livre m'a inspirées. Je dis bien « inspiré », car ce livre, pour une existence spirituelle, est un livre inspirant à la mesure de sa profondeur et de sa capacité à guider le lecteur sur les chemins de sa propre existence. Ce livre, c'est d'abord un certain style et un certain paysage. Un certain style où se conjoignent la simplicité, la concision, le désir de l'essentiel. Le ton est donné dès la première page avec cette formule déjà citée « Ce qui s'oppose au spirituel, c'est l'immédiateté ». Mais l'ensemble du livre est parsemé de formules analogues, dignes de la plus belle tradition française dans le champ de la philosophie comme dans celui de la littérature spirituelle. Un certain style, donc, mais aussi un certain paysage. Non pas un paysage de sentiers escarpés, d'aridité extrême ou d'oppressante obscurité, comme certains paysages du mont Athos qui sont évoqués dans l'un des chapitres de l'ouvrage, mais bien plutôt un paysage soigneusement dessiné, un paysage humain où il fait bon marché et où on avance d'un bon pas, guidé par une main très sûre. Quelque chose comme un jardin à la française, bien ordonné, avec de droites allées, mais aussi des chemins de traverse et des terrasses surélevées qui, par moments, offrent des perspectives nouvelles. Rien de faussement irénique en cela, car le lecteur rencontre aussi des zones d'ombre, des espaces nocturnes, voire des abîmes, en particulier ceux du mal et de la souffrance, dans le chapitre 5 de l'ouvrage. Là même, pourtant, le lecteur est toujours conduit. Il lui est donné de se laisser surprendre par des points de vue nouveaux qui vont être pour lui source de lumière. Sur le fond de ces premières impressions, je voudrais revenir sur quelques apports du livre qui m'ont spécialement retenu, trois en particulier. D'abord, l'enjeu de ce livre dans la situation spirituelle de notre temps, dans nos sociétés. Ensuite, la portée universelle du propos qui est ici tenu et la place donnée à l'inspiration chrétienne. Enfin, la question du mal du point de vue théologique. Je voudrais en premier lieu souligner, sur la base du premier chapitre, l'enjeu tout à fait capital d'une réflexion sur l'existence spirituelle telle qu'elle est ici proposée. Dans une situation qui est, nous le savons, marquée par beaucoup de soif spirituelle et où la tradition chrétienne doit en même temps faire entendre sa voix propre. Henri Lau est très conscient de certaines formes de spiritualité qui s'expriment dans notre situation culturelle. Il n'envisage pas ici les spiritualités directement liées à telle ou telle religion. Il relève plutôt, comme une nouveauté propre à notre temps, le fait que la quête spirituelle, je cite, s'affirme de plus en plus contre une religion, particulièrement contre le christianisme. C'est le cas de ce qui est désigné comme spiritualité laïque, ou encore, d'une autre manière, de ce qui se présente comme la spiritualité d'un athée, chez André Comte-Sponville. De tels courants sont porteurs d'aspirations qui doivent être reconnues et respectées. La volonté de retrouver du sens ou de la transcendance dans une société menacée par le matérialisme. La mise en avant de certaines valeurs empruntées au christianisme, d'ailleurs, et qui sont mises au service d'un humanisme laïque. L'invitation à une authentique sagesse qui peut être expérience d'unité intérieure, de paix, de plénitude ou de bonheur. Ce qui s'exprime de manière particulière chez un auteur comme Luc Ferry ou chez André Comte-Sponville reflète bien, me semble-t-il, un état d'esprit beaucoup plus largement répandu entre ceux qui sont plus ou moins adeptes de telle ou telle religion et ceux qui, à l'inverse, font ouvertement profession d'athéisme. Beaucoup ont rompu tout lien avec le christianisme et néanmoins sont habités par un sens très profond de certaines valeurs, par une recherche de sens et par des formes d'ouverture à quelques formes de transcendance. Il y a donc à reconnaître et à respecter cela. Et le christianisme, en tout cas, n'a de ce point de vue aucune exclusivité dans sa requête d'une existence spirituelle. Mais il y a cependant une position propre à la voie chrétienne. Et je relève les caractéristiques que Henri Lau lui reconnaît. Tout d'abord, à la différence des spiritualités laïques, et a fortiori des spiritualités athées, l'existence est ici vécue comme une réponse à Dieu, plus précisément au Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Une existence chrétienne ne se satisfait donc pas d'un vague sentiment spirituel, et surtout, elle n'est pas orientée d'abord vers la recherche de soi ou de son propre épanouissement. Elle est référée au Dieu de Jésus-Christ, à qui elle entend répondre, et elle implique un décentrement radical. Elle est aussi une existence qui implique la relation, d'abord la relation au sein d'une communauté fraternelle, mais plus largement la relation à d'autres, à beaucoup d'autres, qui ont droit à entendre la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Elle implique encore un rapport essentiel à l'avenir, à la mesure d'une foi et d'une espérance qui ne sont pas limitées à cette vie, mais qui attendent un accomplissement par-delà la mort. Il me semble essentiel que tout cela soit fortement souligné dans le livre. Dans une situation culturelle où la quête de transcendance se trouve souvent confinée dans les limites de la condition humaine, où l'on se restreint facilement à l'immédiateté du présent, où l'on est fortement menacé par le repli sur soi et par l'individualisme, le livre de Henri Lau met en évidence l'apport original de la voie chrétienne, non pas dans une posture d'exclusion par rapport à tout ce qu'il y a d'authentique dans les aspirations spirituelles de notre temps, mais pour manifester que l'existence chrétienne doit être elle-même identifiée comme existence spirituelle et qu'elle a des caractéristiques propres dont la portée est particulièrement actuelle. La position ici adoptée aide à comprendre, en deuxième lieu, l'impression que le livre donne d'un bout à l'autre. D'un côté, ce qui est dit peut résonner pour chaque être humain, quelles que soient ses convictions religieuses, dans la mesure où chaque être humain s'efforce précisément de vivre son existence comme existence spirituelle. Il y a bien une portée universelle du propos. De l'autre côté, une inspiration ou un éclairage spécifique se trouve apporté par la tradition de la voie chrétienne. Et ces deux perspectives alternent ou se succèdent, souvent même elles se recoupent, mais sans jamais se confondre. Les chapitres 2 et 3 du livre en donnent une très belle illustration. Le chapitre 2, tout d'abord, qui traite de l'enjeu spirituel du moment présent. On y trouve d'abord une réflexion fondamentale sur le temps et sur la manière de vivre, réflexion particulièrement opportune en une époque où on se laisse si facilement distraire et disperser par des rythmes effrénés et où il devient plus vital que jamais de savoir vivre en vérité le moment présent, avec simplicité, dans l'attention à ce qui advient, dans la disponibilité qui permet la rencontre des événements, dans la mémoire vivante du passé et l'ouverture à l'avenir. À travers cette manière de vivre le présent, il s'agit, comme l'écrit Henri Lau, de devenir une présence, de réaliser la présence. La formule a déjà été citée. Tout être humain qui s'efforce d'être vraiment humain peut comprendre cela. Mais voici qu'un éclairage spécifique est donné à la fin de ce chapitre 2, à la lumière de Jésus et de la manière dont il vit, en se laissant habiter par plus grand que soi, lorsque, dans la solitude, il prête attention à la voix de son Père et révélant une qualité inouïe de présence parmi les foules qui viennent à sa rencontre. Ainsi, le disciple est-il, je cite, « convié à vivre de cette présence pour être cette présence au milieu de tous ». Une remarque analogue peut être faite à propos du chapitre 3 sur éthique et vie spirituelle. On y trouve d'abord des pages très substantielles sur la tâche de l'éthique, qui a pour visée la vérité de la personne dans ses paroles, dans ses actes, dans ses relations. Des pages très fortes sur le fait que l'éthique, si elle a l'absolu pour horizon, n'en doit pas moins prêter attention à l'histoire, et plus précisément aux médiations historiques. Des pages très fortes également sur l'exigence qui s'impose à l'éthique de faire appel à la raison et d'en respecter les procédures. Et le parcours met finalement en évidence le désir de dépassement dont témoigne l'éthique, ce qui suffit d'ailleurs à dire, comme tel, le lien profond, intime, entre l'éthique et la vie spirituelle. Mais ici encore, comme dans le chapitre précédent, le chapitre se termine par un développement sur l'inspiration chrétienne. Si tout ce qui a été dit précédemment vaut pour tout un chacun, il reste que la vie spirituelle chrétienne offre des ressources toutes particulières pour orienter l'action. Et cela avant tout parce qu'elle fait mémoire de la manière dont le Christ est lui-même en relation avec d'autres, dans une attitude qui est à la fois d'accueil et de disponibilité. On a ici une très belle lecture d'évangile qui laisse en effet paraître combien la figure de Jésus est à même d'inspirer le comportement éthique. La remarque que je viens de faire à partir des chapitres 2 et 3 inviterait à retrouver au fond une question fort traditionnelle. Y a-t-il ou non une spécificité de l'éthique chrétienne ? D'un côté, on voit bien que ce qui est dit sur la manière de vivre le présent et sur la vérité de la relation à autrui peut se dire, et se dit en fait, dans un langage qui le plus souvent n'implique pas de référence à la tradition chrétienne. Il y a bien une portée universelle du discours ici tenu. De l'autre côté, la référence à la source évangélique fait entendre une voix singulière, unique, une voix d'une telle profondeur et d'une telle puissance d'inspiration qu'on peut même se demander si les considérations précédentes sur l'éthique ne présupposent pas déjà, implicitement au moins, une référence de cette nature. Peut-être, Henri, peut-être pourras-tu, tout à l'heure, apporter quelque éclairage par rapport à ces questions. Je retiens en tout cas que le langage prédominant du livre est ici celui de l'inspiration ou des ressources. Je cite « La vie spirituelle chrétienne a de quoi inspirer la vie éthique. Elle offre de belles ressources pour orienter l'action. » Peut-être serait-il intéressant de revenir sur ces concepts d'inspiration et de ressources qui ont été sûrement choisis à dessein pour qualifier le type de rapport qui peut exister entre la source évangélique et les réflexions relevant d'une éthique fondamentale, portée universelle. Mais je voudrais encore m'arrêter, ce sera mon troisième et dernier temps, sur la question qui fait l'objet du chapitre 4, affronter le mal, où est Dieu ? Une question qui m'intéresse particulièrement du point de vue théologique. Il faut reconnaître que dans les siècles passés, et jusque dans les premières décennies du XXe siècle, cette question du mal a été souvent plus ou moins contournée par la théologie chrétienne, et cela pour deux raisons. D'une part, parce que l'insistance a été surtout mise sur le mal librement et consciemment commis par quelqu'un, ce qu'on appelle traditionnellement le péché personnel, avec le risque d'occulter le mal-malheur, celui qui s'abat tragiquement sur des personnes ou sur des populations sans qu'elles y soient pour rien. D'autre part, parce que là même où la théologie a dû faire face au problème du mal sous cette dernière forme, du mal-malheur, elle a été facilement tentée de souligner avant tout, dans une perspective apologétique, que le mal ne devrait pas être perçu comme une objection contre l'existence de Dieu. les catastrophes des guerres mondiales du XXe siècle ont cependant occasionné un tournant, en particulier la tragédie de l'Holocauste, qui, à partir des années 1970 surtout, a suscité une interrogation radicale parmi les théologiens, interrogation radicale qu'on a volontiers formulée en ces termes: comment pratiquer la théologie après Auschwitz? C'est cette question qui est par exemple au point de départ de la réflexion développée par le théologien protestant Jürgen Moltmann dans son ouvrage « Le Dieu crucifié ». Avec lui et après lui, on a souligné la déficience d'une théodicée qui contournerait l'épreuve du mal, et on a fait valoir que la prise en compte du mal devait bien plutôt rejaillir sur la manière même de parler de Dieu. Dieu devant être pensé à la lumière de la croix comme celui qui, jusque dans son mystère le plus profond, se laisse lui-même atteindre par la souffrance des hommes. Cette ligne dominante de ce qu'on appelle la théologie après Auschwitz, cette ligne dominante, pour juste qu'elle soit, peut néanmoins laisser quelque insatisfaction. Suffit-il, face à l'épreuve du mal dans sa plus grande radicalité, de faire valoir que Dieu lui-même est de quelque manière un Dieu crucifié? À la limite, n'y aurait-il pas le risque d'aboutir ainsi à une nouvelle forme d'apologétique, plus juste assurément que l'apologétique traditionnelle, mais qui, en laissant avant tout entendre que les épreuves de l'humanité conduisent finalement à mettre en évidence le vrai visage de Dieu, ne serait pas suffisamment à hauteur de ces épreuves et semblerait même, à son tour, les contourner quelque peu? Or, c'est ici que le chapitre de Henri Lau me semble apporter des éclairages de grande portée. D'abord parce qu'il prend le temps de s'arrêter sur l'expérience du mal comme telle, ou plutôt sur les expériences du mal, car elles sont non seulement diverses, mais à chaque fois singulières, et doivent être reconnues dans leur singularité même, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, des catastrophes dites naturelles, ou des tragédies comme celle des camps d'extermination. Mais aussi et surtout, le chapitre apporte des éclairages par plusieurs déplacements qui nous invitent à opérer. Le premier concerne l'interprétation de la théodicée de Leibniz. Voltaire, rappelons-nous, ironisait sur cette théodicée en faisant dire à l'un de ses personnages que le mal, y compris le terrible tremblement de terre de Lisbonne en 1755, n'empêchait pas d'affirmer que notre monde est le meilleur des mondes possibles. Mais Henri restitue la pensée de Leibniz dans sa véritable force. Leibniz, nous dit-il, n'entendait pas nier la réalité du mal. Il disait par contre que si Dieu avait créé des êtres incapables de faire le mal, s'il avait créé de simples automates, le monde aurait été pire. Ce premier déplacement est déjà riche d'enseignements. Il arrive, nous savons, que la question soit posée: que fait Dieu pour empêcher les hommes de se faire la guerre? On pourrait peut-être répondre, dans l'esprit de Leibniz, qui serait Dieu s'il avait créé les hommes sans liberté? Il est vrai que cette réponse semble bien insuffisante lorsqu'on est en prise, non plus avec des guerres qui sont le fruit de la liberté humaine, mais avec des catastrophes dites naturelles. Mais sur ce point même, Henri invite à un deuxième déplacement. Tout est-il naturel dans les catastrophes dites naturelles? Henri rappelle que Jean-Jacques Rousseau disait, à propos du tremblement de terre de Lisbonne, ce séisme aurait fait moins de victimes si les hommes avaient été plus avisés dans leur manière de construire la ville. Et nous savons bien qu'aujourd'hui même, un séisme fait moins de victimes dans certains lieux que dans d'autres, selon la manière dont les maisons sont construites. De ce point de vue, il y a bien une responsabilité humaine qui est engagée. Reste, il est vrai, tout ce qui échappe à cette responsabilité, tout ce qui s'abat sur des victimes, quoi qu'on ait pu faire. Cette peste qui ravage la ville d'Oran dans le célèbre roman de Camus, cette tragédie du mal dans ce qu'elle a d'accablant, d'extrême, d'excessif, d'inexplicable, d'injustifiable. Mais un dernier déplacement est ici proposé. L'histoire, comme l'actualité, témoigne çà et là de situations dans lesquelles des hommes ou des femmes au cœur de leur épreuve la plus radicale, trouvent en eux la force de tenir bon, l'énergie de vivre. Ils puissent en eux, comme dit Henri, un principe de vie ou un absolu de vie qui leur donne de vivre à nouveau, de recommencer à vivre et de vivre autrement. Et Henri ajoute, un absolu de vie peut-il être autre que la vie ou le vivant? Et je pose et propose que celui-ci peut être nommé Dieu. Un chemin s'ouvre ainsi vers la nomination de Dieu jusqu'au cœur de la détresse, non pas à cause de la détresse, mais à la mesure de l'énergie de vie qui se déploie dans cette situation même. Il s'agit seulement d'une possibilité, certes. L'excès du mal peut être tel que l'on ne puisse pas reconnaître ni nommer ce principe de vie toujours offert au cœur de l'abîme. Mais la possibilité existe néanmoins. Et il suffit qu'elle existe pour que nous ayons cette assurance, je cite Henri, le nom de Dieu peut être affirmé depuis la plus profonde détresse. Ces divers déplacements auxquels Henri invite son lecteur sont très précieux pour la théologie et l'invitent, me semble-t-il, à se renouveler dans son langage sur le problème du mal, pour une part au moins, mais surtout, beaucoup plus largement, ces déplacements sont de grand prix pour quiconque réfléchit sur l'épreuve de la souffrance. Les développements de Henri Lot aident à tenir en la matière un langage ajusté, en des pages qui ne sont pas seulement très éclairantes, mais qui, sans jamais contourner l'expérience du mal en ce qu'elle a de plus tragique, aident à identifier des ouvertures vers la vie et des chemins d'espérance. Je ne peux pas m'arrêter longuement sur le dernier et magnifique chapitre du livre consacré à l'adresse à Dieu dans la mystique chrétienne. Je me contente d'attirer l'attention sur le remarquable exposé à propos des voies de la purification, celles qui se cherchent à travers l'effrayante austérité de certains paysages du mont Athos et la rudesse du combat spirituel qui put s'y livrer, celles qui passent par la voie négative, la nuit obscure dont parlent les gens de la croix, celles enfin qui s'expriment à travers le projet de tout rapporter à Dieu pour le service d'autrui, et cela jusque dans le plus ordinaire de l'existence, ainsi qu'y invite Jean-Joseph Surin. Je retiens que, à travers ces diverses modalités de l'expérience mystique, le langage sur Dieu se trouve reconfiguré. Une expérience se trouve ici engagée, une nomination de Dieu est à l'œuvre, un silence aussi est requis, au sens où il s'agit de retrouver le point de silence en soi, que ce soit dans la Chartreuse ou au milieu des villes. Enfin, une capacité d'interrogation se manifeste. C'est vraiment tout cela qui contribue à qualifier l'adresse à Dieu dans la mystique chrétienne, une adresse à Dieu qui est en réalité réponse, puisque c'est Dieu-même qui d'abord s'est adressé à nous et qui attend que nous lui répondions. J'espère avoir suggéré l'importance du livre qui allie vigueur de la pensée et profondeur spirituelle. J'ajoute que j'imagine de possibles prolongements. Par exemple, compte tenu de tout ce qui est dit sur l'existence humaine et sur les choix auxquels tout un chacun est convié, je verrais bien un autre livre qui se concentrerait sur la question spécifique, mais centrale, de la décision. Comment une décision peut-elle être spirituelle dans sa préparation, dans son acte même, dans ses conséquences ? Il me semble que l'un des enjeux serait peut-être de traduire pour notre temps des principes pour faire une bonne élection, tels qu'ils sont proposés dans les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, mais aussi les critères de décision qui sont proposés pour les jésuites en mission dans les constitutions de la Compagnie Jésus, critères qui ont certainement une portée beaucoup plus large au-delà de cet ordre religieux. Quoi qu'il en soit d'une telle suggestion, je ne peux qu'encourager à lire et relire ce livre, ce beau livre pour une existence spirituelle. Un jésuite du XVIIe siècle, Jean-Joseph Surin, écrivait ces lignes « Comme c'est une croyance commune que le chemin de la vertu est si difficile que les seuls grands courages y peuvent marcher, il est très à propos de faire connaître aux hommes des choses qui puissent animer leurs espérances combattues par les difficultés. » bien, il est sans doute exigeant de mener une existence vraiment spirituelle, mais je remercie d'autant plus, et il faut d'autant plus remercier Henri Lot de nous aider, par son livre, à mieux connaître ce qui est à même d'animer nos espérances sur les chemins d'une telle existence.
Merci beaucoup, Michel, pour cette lecture extrêmement riche du livre d'Henri et qui montre aussi que ce petit ouvrage n'esquive pas les questions redoutables. Alors, je vais vous lire encore un autre petit extrait qui est en rapport avec le point 2 de l'exposé de Michel. La vie spirituelle chrétienne a de quoi inspirer la vie éthique. Elle offre de belles ressources pour orienter l'action. En effet, elle apprend du Christ la relation à l'autre. L'attitude fondamentale est celle de l'accueil et de la disponibilité. Jésus se laisse surprendre, il se laisse déranger. Les évangiles nous le disent presque toujours en chemin, allant d'un lieu à un autre, parcourant le pays en tous sens. Or, le chemin expose à l'imprévisible. À la différence du lieu habituel, où le monde est par définition le même monde à peu de choses près, le chemin fait accomplir des traversées. Il expose à la rencontre imprévue, dangereuse parfois, consolante d'autres fois, imprévisible toujours. Son lieu est de parcourir des espaces. Il est par là même de parcourir les profondeurs de l'expérience humaine. Il les visite. En chemin, Jésus rencontre le malade et toutes sortes de maladies. Il s'expose à l'humanité entière dans la diversité de ses souffrances. Quand des foules viennent à lui, il ne les renvoie pas, mais rencontre chacun dans sa singularité. L'homme, la femme, l'enfant, le lépreux, le possédé, l'aveugle, le sourd, le muet, le paralytique, l'adultère, celui qui a faim, celle qui a soif au bord d'un puits. Il rencontre des situations sociales, le collecteur d'impôts, le scribe, le pharisien, des pauvres et des riches. Son rapport à l'humanité n'est pas anonyme, comme s'il connaissait déjà ce qu'il en est de la souffrance et comme s'il lui suffisait de la regarder d'en haut. Jésus ne sauve pas de loin. Il vient au-devant. Il se laisse rencontrer. Il se fait proche. Et chacun compte. À chacun, il est présent. Il est présence. Voilà. Eh bien, Henri, à toi la parole.
C'est un peu difficile, mais ce qui est facile, c'est de remercier vraiment avec beaucoup de gratitude Élodie Moreau, Michel Fédou pour ce qu'ils viennent de dire. Je suis très 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 confus de ce qu'ils viennent de dire. Merci à Étienne aussi pour l'organisation de cette soirée. Merci à vous pour votre présence ce soir parce qu'elle me touche beaucoup. Elle me touche beaucoup parce que j'ai le sentiment d'avoir mis des convictions, disons, dans cet ouvrage. Enfin, pour moi, ce n'était pas un texte comme les autres, mais sa forme brève, peut-être ramassée, m'a permis d'exprimer, je crois, ce que je trouvais essentiel en traversant un certain nombre de champs. Alors, je n'ai pas préparé d'exposé supplémentaire, parce que je me suis dit qu'il y avait déjà beaucoup de paroles et puis qu'un certain nombre d'entre vous avaient certainement lu ce livre. Mais tout de même, je me suis mis à réfléchir un petit peu cet après-midi, comme ça, à revenir sur ce texte. Je me suis posé plusieurs questions, je me suis interrogé aussi sur l'objectif, sur ce que je comptais faire. Il a été parlé d'inspiration, il a été parlé d'adresse. Je crois qu'un projet du livre, c'était de parler aujourd'hui, de tenir un langage situé, un langage inspiré, situé dans la foi chrétienne, mais qui puisse aussi s'adresser à beaucoup, par-delà tel langage particulier. Donc non pas de faire une apologétique, hein, une défense de la foi chrétienne, mais de parler d'un certain nombre de réalités, de sorte que, nourrie de conviction ou de foi, elle puisse faire signe à d'autres. C'est une expression que j'emploie à plusieurs reprises, faire signe à d'autres, et cela à partir de lieux redoutables. L'un des lieux les plus redoutables qui a été évoqué, c'est cette question du mal, question où j'ai toujours le sentiment que mon discours ne peut qu'être le plus provisoire possible, tant il y a d'expériences humaines engagées et tellement il y a de larmes concernées, parce que je crois que ce qui définit au plus juste la diversité des expériences du mal, eh bien, c'est le fait que des larmes sont là, hein, pour dire une souffrance, et une souffrance en profondeur. Alors, faut-il ne rien dire ? Non, justement, ne rien dire, ce serait se soumettre au mal et le déclarer inexorable. Mais que dire ? Alors, un certain nombre de discours sont évidemment possibles dans l'histoire, qui sont des manières tout de même de réfléchir, qui sont des manières d'accompagner, d'aider. Hein, il a été fait allusion à quelques-uns de ces discours. Et des discours qui sont d'autant plus difficiles que la question du mal, par exemple, est toujours, est en corollaire avec la question de l'existence de Dieu, hein, et qu'elle se présente comme première objection à l'existence de Dieu. Mais que dire ? Quel langage tenir qui ne soit pas un langage qui ferait apparaître un Deus ex machina, par exemple. Comment traverser une expérience, quelles ressources, comment inspirer, alors, pour le coup, une attitude, des attitudes de vie. Et je propose quelque chose qui puisse, enfin, ce n'est pas que je propose, mais mon sentiment est de faire, disons, et de permettre à chacun de traverser, voilà, ce qu'il rencontre, hein, cet imprévu, cet imprévisible, de permettre de le traverser dans une attitude qui ouvre un avenir, une attitude qui redonne de la vie. Et je dis, s'il y a une attitude, une position d'espérer qui redonne de la vie, eh bien, si on est dans le plus réel, dans ce qui donne de vivre et donne de vivre de nouveau, je dis que nous ne sommes pas ailleurs que dans la foi chrétienne, mais nous ne sommes pas dans la foi chrétienne comme celle qui pourrait, de l'extérieur et par une autorité surplombante, dire comment faire ou dire ce qu'il faut faire, parce qu'au fond, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ne peut plus rien faire, lorsqu'on n'en peut plus, lorsqu'on est écrasé dans une expérience d'excès, eh bien, il reste à se rencontrer certainement à nouveau soi-même. Je crois que c'est de là que des ressources nouvelles peuvent être trouvées. Alors, je dis, voilà, un langage qui ne veut pas être une apologétique, mais qui puisse faire signe, qui puisse aider. Un langage qui invite, oui, ce n'est pas un traité, hein, c'est court, une centaine de pages, ce n'est pas un traité, ce n'est pas un discours systématique sur tous les points. Non, il s'agit plutôt d'inviter. Et il y a un point du livre, parce qu'un livre, c'est une couverture aussi. Et l'éditeur du Centre Sèvres m'avait demandé de réfléchir à une photo pour ce livre, disons, comme il y a un côté personnel, ce serait peut-être bien qu'il n'y ait pas que le titre sur la page de couverture, mais qu'il y ait aussi une photo. Alors, je m'étais demandé quelle photo choisir. Je me dis, je ne vais pas mettre Saint-Ignace, je ne sais pas, ou une icône, ou un thème, ou une représentation trop explicitement religieuse, parce que c'est quelque chose d'autre que je visais. Je me suis dit, je ne vais pas mettre non plus un coucher ou un lever de soleil. Enfin, ça fait un petit peu romantique et ce serait trop dans le sens de sentiments, de spiritualité, voilà, de courants divers. Bon, tout à fait respectable, estimable. Hein. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de respect pour toutes les recherches. Les recherches d'hier et d'aujourd'hui qui aident à vivre, hein, qui sont de véritables ressources dans nos sociétés, mais ce n'était pas tellement cela. Alors j'ai choisi cette branche d'un arbre de Judée parce que d'abord c'est un arbre et l'arbre il était enraciné dans le jardin familial donc en Languedoc, donc il avait une certaine caractéristique, une précision. Et puis, ce sont des branches, elles sont belles, je crois, ce sont des fleurs, et des branches qui sont tournées vers le haut. Elles sont tournées vers le haut, et en l'occurrence, c'était un ciel tout à fait bleu et tout à fait méditerranéen qui allait bien avec la couverture, avec le bandeau de la couverture du livre. Ben, je me dis, au fond, cette image, qui ne devait être ni trop petite ni trop grande, hein, pour ne pas écraser le titre non plus, c'est très compliqué de faire une page de couverture, ben, je me dis que cette photo, elle peut suggérer. Je crois que perspective du livre, c'est de suggérer. Alors, pour suggérer, il faut bien dire aussi, hein, mais il faut bien trouver des mots, faire des phrases. Mais, voilà. Le style ou mon esprit était plutôt à travers les mots qu'il faut bien trouver, suggérer, faire entrer dans une expérience aussi, parce que il n'y a pas de terme technique. Et je dis Michel, vous l'avez dit, il n'y a pas de terme technique, ce n'est pas compliqué. Pourtant certains lecteurs m'ont dit, mais enfin il faut s'arrêter un petit peu, enfin ça ne va pas si vite. Mais justement, il faut prendre un peu de temps. Quoi. Voilà, ce n'est pas de la vitesse, mais entrer dans une expérience. Et entrer dans cette expérience, finalement, la forme, c'est le contenu même du livre. Hein, c'est le contenu même du livre. Alors, je vous donnerai la parole après. Il y a cette formule qui arrive très vite dans l'introduction. Bon, l'introduction est brève. Et je voulais que ce soit une introduction qui mette rapidement de plein pied dans l'objectif, hein, d'où la première phrase. La première phrase, elle dit la thèse, donc à la limite, on peut ne pas aller plus loin. C'est toute l'existence qui est appelée à devenir spirituelle. C'est-à-dire que le spirituel, ce n'est pas l'affaire d'un moment, ce n'est pas le temps de la prière ou de l'adoration ou de la confession ou de la retraite, enfin tout ça qui est évidemment estimable. Non, c'est toute l'existence, c'est-à-dire c'est un déploiement. C'est l'existence qui est appelée à prendre de l'ampleur, à s'approfondir. Susciter de la beauté, susciter de la grandeur, susciter de la relation, susciter des liens, renouveler des liens, susciter des compréhensions, les renouveler, voilà, les compréhensions que nous avons de nous-mêmes, du monde, du rapport à autrui, des événements. Voilà. Rechercher ce qui agrandit les espaces de la vie. Je crois que fondamentalement, c'est de ce côté-là, hein, qu'il faut comprendre le spirituel, hein, rechercher ce qui agrandit les espaces de la vie. Et alors, très rapidement, dans cette introduction, oui, je risque cette formule, le contraire du spirituel, ce n'est pas ce à quoi on l'oppose spontanément, et peut-être avec facilité, et qui n'est pas faux, parce que c'est vrai, on peut faire l'opposition de l'esprit et du corps, de l'esprit et de la matière, bien sûr, enfin, toutes ces oppositions des dictionnaires, et qui sont des oppositions canoniques, elles tiennent. Ce que je voulais suggérer, c'est que le spirituel, c'est de l'esprit, c'est du souffle, c'est ce qui fait vivre, et c'est ce qui déploie. Et donc, une existence spirituelle, c'est une existence déployée, hein, inspirée, inspirante, voilà, qui prend son temps, qui ne se satisfait pas du manque de distance, mais qui au contraire retrouve le rythme des saisons, le rythme du temps, hein, la réalité du temps. J'ai une petite note quelque part sur l'expression en temps réel. Que l'on trouve souvent, hein, quand on dit ceci vous sera donné, communiqué en temps réel. Alors on veut dire immédiatement, hein, on veut dire très vite, mais dis, qu'est-ce qu'un temps qui ne serait pas réel? Est-ce que ce ne serait pas le plus irréel des temps? Voilà, il y a une manière de parler du temps réel qui gomme probablement la médiation, le temps de l'apprentissage, le temps qu'il faut pour entrer en relation. Et une existence déployée, c'est-à-dire une existence qui cherche des passages. Une existence qui cherche, parce que se déployer, c'est faire du chemin, oui, c'est ouvrir des passages. Et dans l'éthique, oui, il y a bien constamment à chercher des passages, hein, en tout lieu de la vie. Une existence qui lutte pour la vie, et je dis longuement, comme dans une incise, elle lutte pour la vie longuement, parce qu'elle n'en a jamais fini de lutter pour la vie. Et les recherches, et deux éclairages, hein, de votre part sur les rapports, enfin, sur les interrelations, sur les allers-retours, hein, entre l'éthique, entre la vie éthique et la vie spirituelle, et ça me fait beaucoup réfléchir, parce que en effet, je crois que la vie spirituelle apprend beaucoup de l'éthique, c'est-à-dire qu'elle apprend. Au cas où elle l'oublierait, elle est en position d'apprendre beaucoup des lois de la croissance dans l'histoire. Des lois de la croissance. Comment une décision juste, une parole juste, toujours amenée à prendre le temps de l'engendrement, le temps de naître. Et on sait que dans l'histoire, à travers beaucoup d'expériences collectives, que toutes les situations où l'on a voulu transcrire le bien, dire la vérité, le bien, immédiatement, eh bien, on finit dans les pires catastrophes et dans la terreur. Comment éviter cette terreur des événements collectifs et peut-être cette terreur aussi des histoires individuelles, sinon en apprenant les lois de la croissance, qui sont les lois de l'incarnation. De ce point de vue, l'incarnation, cette prise dans la chair, la chair d'un chacun, la chair de l'histoire, est ce qui, je crois, peut inspirer beaucoup tout comportement. Voilà. Ce qui appelle. Et si on peut parler de ce qui appelle et de ce qui élève, de ce qui redonne du souffle, de ce qui redonne de vivre plus profondément, si on appelle à une dimension de vie qui est vraiment du sens pour l'existence, ce sera pour toute existence. Et c'est en sens que la voie chrétienne n'est pas une voie plaquée ou une voie particulière, hein, au point d'être une parenthèse dans la longue conversation de l'humanité. Et c'est partie intégrante de cette conversation de l'humanité dans laquelle elle s'intègre. Alors les formules courtes, ici ou là, c'est qu'il y a... Il y a peut-être aussi de la rhétorique, c'est-à-dire parler de l'immédiateté ou du refus de l'immédiateté à partir du spirituel, c'est tenter une attitude qui oblige à réfléchir. Voilà. Qui oblige à réfléchir. Parce que spirituel, immédiateté, bon, on pourrait développer, hein, mais bon, j'aurais évidemment d'autres choses à dire, mais peut-être on peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Vous-même.
Merci beaucoup Henri de nous redire des éléments vraiment essentiels de ton projet et en même temps de nous partager quelque chose sur, disons, la manière de le proposer. Voilà, donc on peut prendre maintenant un temps de questions ou de réactions.
Je suis en total désaccord avec ton premier point, qui était le préalable. Voilà, mais voilà, tout à fait. Enfin, je te remercie beaucoup hein, de ces différentes remarques. Oui, je n'avais pas fait attention à cette expression du point. Il y en a un qui me vient spontanément à l'esprit parce qu'il est probablement davantage marqué dans la table des matières. C'est le point du silence. Retrouver le point du silence en soi. Hein, ce point, cet espace qui n'est pas un espace, et c'est dans le dernier chapitre, et il y a là en effet quelque chose de tout à fait constitutif de cette existence spirituelle. Et j'aime bien rappeler, c'est ce que je fais dans le dernier chapitre, cette exigence d'un grand silence hein, du côté de la chartreuse. J'ai dit qu'au fond, la spiritualité de la chartreuse, c'est construire quatre murs, à l'intérieur de ces quatre murs, construire des cellules et mettre quelqu'un dedans. Et on voit ce qui se passe, et il se passe quelque chose. Mais le silence, la solitude, en même temps, on le perçoit d'une façon très, très, très exemplaire, entre guillemets. Enfin, non pas qu'il faille faire la même chose dans la chartreuse, mais je dis ce point du silence, il serait imaginaire si l'on le réduisait à telle forme de vie monastique, religieuse, érémitique, communautaire, peu importe. C'est-à-dire que retrouver ce point du silence, c'est la condition humaine, d'abord. C'est la condition humaine, c'est la condition confessante aussi. Et j'aime bien citer, notamment lorsqu'on parle de mystique, et pour comprendre quelque chose de la mystique, eh bien, citer cette personne qui a vécu non pas dans la cellule de la chartreuse, mais dans ces autres cellules de notre humanité contemporaine, Madeleine Delbrel, hein, qui a des pages absolument admirables sur le silence et la solitude. Hein, le silence, c'est quelquefois se taire, dit-elle, mais le silence, c'est toujours écouter. Hein, et on voit à quel point, alors là, ce point du silence, ça a engendré en elle une présence, une attention hein, dans les situations eh bien, qui étaient les situations sociales et politiques et humaines des années qu'elle a vécues, enfin, après-guerre et bien au-delà, enfin, jusque dans les années 60. Hein. Voilà, ce point, ce que tu dis aussi d'une singularité qui s'expose. Je crois que c'est une belle expression, hein. Voilà, être une singularité qui s'expose, qui n'impose pas, qui n'y a pas à imposer. Et la page qu'Étienne a lue du Christ, elle montre un Christ qui n'impose pas, enfin, qui ne sait pas d'avance, je crois que je le dis comme ça, enfin, qui ne sait pas d'avance ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. Enfin, alors ça ne veut pas dire qu'il est dans le brouillard et dans l'incertitude, mais cela veut dire que, voilà, ça... Son mode d'être lui est donné, lui est inspiré et rejoint ce qu'il est au plus profond de lui-même. Il est à l'écoute de celui qu'il envoie et de ce qu'il rencontre. Et la rencontre, elle est là. C'est-à-dire qu'une rencontre programmée, prédéterminée n'est plus une rencontre. Par définition, c'est là. Et l'existence resserrée sur elle-même. C'est le contraire de l'existence déployée, c'est l'existence resserrée, refermée sur elle-même et qui étouffe. Voilà. Elle ne trouve pas le silence, et si elle ne trouve pas le silence, elle ne trouvera pas la parole non plus. Elle ne trouvera pas la juste manière d'être accordée à autrui, alors qu'il lui faut toujours trouver comment s'accorder, se réaccorder.
Question de Jean-Marie. On va faire circuler un micro parce que il paraît que pour que ça puisse être enregistré, pour que les questions puissent être enregistrées, il faut parler dans le micro. Voilà.
Mais je ne sais pas si je vais poser une question si elle est enregistrée. Non, merci beaucoup pour ce que nous avons entendu. Je n'ai pas lu ton livre encore, mais je me promets de le faire. Ça m'intéresse beaucoup. J'étais très sensible à ce qui a été souligné, que tu dis, si j'ai bien compris, quasiment dans le début, c'est-à-dire le contraire du spirituel, c'est l'immédiateté. Alors évidemment, peut-être ça serait peut-être intéressant de préciser un peu de quelle immédiateté il est question, parce que Il y a quelque chose qui est assez bien, assez central quand même dans l'expérience biblique, c'est l'expérience du Sinaï, qui est une expérience immédiate, qui ne dure pas très longtemps, heureusement d'ailleurs, mais enfin elle est quand même immédiate. Et puis je pensais aussi à, est-ce qu'on pourrait parler d'immédiateté, mais je pense quand même dans la consolation sans cause, dans les exercices, je pense qu'on est là aussi dans une expérience immédiate. Alors du coup ma question ce serait cette immédiateté qui s'oppose au spirituel, et je suis tout à fait d'accord avec ça, il faudrait peut-être un peu, est-ce que tu pourrais un peu, de quel ordre elle est cette immédiateté?
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Je me suis fait aussi cette objection, notamment me rappelant le texte de Karl Rahner, au jésuite dans son temps, disant il faut faire l'expérience immédiate de Dieu. Est-ce que je vais contre Karl Rahner? Alors, c'est une bonne question. Hein. Alors, il y a une, disons, j'ai voulu un petit peu provoquer à la réflexion tout de suite, hein, dans le deuxième paragraphe, hein, ou le troisième paragraphe du livre, pour indiquer une orientation, hein, indiquer tout de suite une orientation. Et je dis, c'est l'immédiateté des décisions, des réactions, des relations. C'est-à-dire tout ce qui est fait, tout ce qui est produit, eh bien sans retrouver le point du silence en soi, sans rencontrer l'autre finalement, et peut-être sans se rencontrer soi-même. Alors c'est une immédiateté, l'immédiateté qui est visée, et c'est l'immédiateté de la finalement de l'imaginaire, quoi. Celle du rêve que tout est disponible, donné comme cela, sans la dimension du temps, sans la dimension de l'engendrement, sans la dimension de la rencontre, du retour sur soi. Hein. L'immédiateté, c'est en ce sens que je voilà, que c'est une immédiateté qui n'interroge plus le présent, finalement. Qui ne s'interroge plus soi-même, mais qui n'interroge plus le présent. Or, l'existence spirituelle, c'est l'existence qui questionne, quoi. Enfin, qui est en position critique. Comment rencontrer les événements? Je crois que je cite quelque part ce. Voilà. Les événements sont-ils insulte à la gloire de Dieu, amour du néant, course au mensonge. Voilà ce type de questions, par exemple, posées par le psaume. Le psaume 4 est une manière de, disons, par des mots très 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 universels, je crois, qui ont sens, hein, sans alors, dans un enracinement biblique de foi, mais qui ont un sens aussi beaucoup plus large, hein, parler du néant, de la course au mensonge. Je crois que c'est ce type d'interrogation, de langage, de passage par des mots, et qui peut dire ce qui n'est pas un rapport immédiat au présent. Enfin, voilà, moi, alors. C'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être quelques phrases de plus, mais je pense que c'est tout le. Je pense que c'est le contenu du livre, quoi, qui est une manière de. Enfin, qui déploie ce qui n'est pas l'immédiateté. C'est peut-être par contraste, hein, que le terme est abordé, qu'il est expliqué. En voyant toujours que. Complètement répondu à ta question, hein, mais en voyant toujours que bon, le mot spirituel, par exemple, hein, le mot spirituel, il fait partie d'un titre, hein, il fait partie d'un titre qui commence par un pour, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une description. Hein, j'avais pensé comme premier titre l'existence spirituelle. Alors, en parenthèse, c'est pas non plus l'expérience spirituelle. Parce que souvent on fait la confusion, on dit je te remercie pour ton livre sur l'expérience spirituelle. Donc ce n'est pas l'expérience spirituelle, c'est l'existence spirituelle. Hein. Donc on a compris que c'est ce déploiement, enfin, c'est la visée de l'unité, hein, de l'ensemble des dimensions de l'existence. Et c'est un pour, c'est-à-dire c'est un appel, c'est une invitation, c'est un engagement. Et si c'est un engagement et si c'est un appel, c'est une invitation à réfléchir sur que peut signifier pour une existence que d'être spirituel. Au fond, c'est une question en même temps. Voilà. Que peut signifier pour une existence d'être spirituel? Et là, c'est à chacun à trouver son langage, je crois, et à dire ces mots. Et c'est là que la question de l'immédiateté m'est venue, parce que je crois qu'elle est un défi particulièrement important aujourd'hui. Je crois que dans nos sociétés, beaucoup de réalités prennent sens ou non-sens par rapport à cela. Les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises, les engagements qui sont pris ou pas pris, le fait du temps occulté ou aboli, hein, dans les différentes dimensions de la vie, je crois que c'est au cœur, quoi, de ce couple, voilà, spirituel immédiat. Je crois que ça, et je crois que c'est signifiant, c'est-à-dire que ça peut alerter nos consciences et ça peut assez largement alerter des consciences aujourd'hui que de faire réfléchir sur à quoi entraîne l'immédiateté dans une corrélation avec ses effets qui sont des effets de dispersion finalement ou d'existence déconnectée, diffractée, alors que tant de connexions, par ailleurs, fonctionnent dans nos techniques. Beaucoup de connexions, mais aussi beaucoup de déconnexions humaines, finalement.
J'entends la question de Bernard Bougon, et puis moi je me dis, Élodie Moreau ou Michel Fédoux, si jamais vous voulez réagir à l'une ou l'autre des questions ou des interventions, n'hésitez pas. Hein. Ouais.
Voilà. Bon, évidemment, je vais me joindre aux remerciements. Je n'ai pas tout lu de ton livre encore, j'en ai lu qu'une partie. Mais je voudrais revenir sur le point qui a été évoqué, c'est l'attention aux quêtes spirituelles d'aujourd'hui. Et j'aimerais te réentendre un peu là-dessus. Et je prends un exemple très concret, parce que c'est par exemple aujourd'hui l'extraordinaire expansion de la méditation de pleine conscience pratiquée parfois, et je peux en donner des exemples, de manière systématique dans des entreprises de belle taille. Voilà. Donc, sur cette quête spirituelle dont la méditation de pleine conscience portée par qui vous savez, c'est-à-dire Christophe André et Mathieu Ricard, voilà, est un exemple de cette quête. J'aimerais savoir comment toi tu regardes ça.
Oui, sur ce point. Alors, je ne sais pas exactement en quoi consiste la méditation de pleine conscience. Enfin, on peut penser. Enfin, voilà. Donc, il y aurait peut-être des. La notion de salut n'est pas une notion d'aujourd'hui. Et on s'aperçoit que toute la tradition de la les traditions de pensée, les philosophies de l'Antiquité à aujourd'hui, hein, sont préoccupées par la question du salut, mais comprise aussi comme enjeu de la santé, de l'équilibre, hein, du développement personnel, de l'affirmation de soi, de l'expansion du désir personnel, enfin de la pleine affirmation. Moi, je et cela a été dit par Élodie notamment. Je crois qu'il faut avoir un grand respect pour ceux qui se cherchent, pour ceux qui aident à vivre. les quêtes de spiritualité qui sont diverses, hein, selon qu'elles sont aussi plus associées à une religion. Je pense que Mathieu Ricard, c'est le cas, par le bouddhisme, enfin, je ne sais pas, enfin, ou d'autres, ce qui se fait à travers une technique psychologique. C'est une manière, tout cela aussi, de lutter contre le mal, contre certaines formes de mal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des manières de lutter par ceux qui s'engagent dans une liberté, contre le mal, contre la violence, au niveau politique, au niveau psychologique. Hein. Donc, il y a une manière de faire reculer, disons, sinon de lutter contre le mal, de faire reculer des formes de violence, des formes d'aliénation, ou d'augmenter, d'encourager des expressions de la présence, de la pleine affirmation de soi. Et donc il n'y a aucun mépris, et notamment même une... Alors, peut-être qu'il faudrait faire une différence entre ce qui est davantage, voilà, méditation de la pleine conscience, enfin, exercice psychologique dans une entreprise ou autre, et puis des recherches, des quêtes de sens de type éthique, humanitaire, enfin, qui passent par des engagements. Et je crois que la voie chrétienne a s'enrichir de toutes les ressources de l'humanité. C'est-à-dire là où on aide l'humanité à progresser, à condition que cette humanité a engendré de la liberté. Si ce n'est pas pour engendrer plus de liberté, si c'est pour finalement justifier d'un côté, enfin pour, disons, éteindre d'un côté des dangers que d'un autre côté, par notre développement de l'économie, on fait croître, enfin... Voilà, si c'est de cela qu'il s'agit, bon, c'est à questionner. Mais le christianisme est en dialogue avec tant et tant de sagesse, tant de sagesse de toutes parts. Mais je dis, la voie chrétienne, c'est autre chose et ça change tout. D'où cette question de la réponse à nouveau, de la réponse à. C'est répondre à quelqu'un. La voie chrétienne n'est pas une recherche de sens. En ce que, il y a bien du sens, mais le sens est donné par surcroît. Voilà. Le sens est donné, mais par surcroît. Hein. Et comme on l'a dit, le rapport au nom et le rapport à un sens n'est pas de même nature. Et de fait, ça change tout. Hein. Ça change tout. C'est... d'entrer dans une relation à l'extrême, s'adresser à, oui, répondre à. Alors, dans l'existence, notre existence est faite aussi de multiples réponses à, hein, bien entendu. Hein, pour reprendre ce que disait Francis, hein, nous ne sommes pas dans l'anonymat, nous ne sommes pas dans l'anomie, l'absence de loi, de relation. Non, non. C'est Ricoeur qui, une année, parlait dans cette salle de la grande conversation de l'humanité dans laquelle nous arrivons. Il disait, nous appartenons, enfin, nous entrons dans une grande conversation qui a commencé avant nous, dont nous apprenons les règles et à laquelle nous participons pour un temps et dont, le jour venu, nous nous retirerons. Je crois que nous sommes dans cette grande conversation, nous échangeons des paroles et sommes appelés à faire que ces paroles soient de vie, hein, voilà. Et qu'elles engendrent de la liberté. Je crois que c'est cela qui est essentiel. Donc, pour résumer, par rapport à la pleine conscience, je crois qu'on est ailleurs. Dans la voie chrétienne, on est ailleurs. Sans l'ignorer, et tout en intégrant ce qui peut être intégré, hein, bien sûr. Mais c'est d'autre chose qu'il s'agit, dans le fond même.
Je voudrais te poser aussi une question un tout petit peu. Il me semble que plusieurs fois, tu as insisté sur le fait que la vie spirituelle ou l'existence spirituelle, au lieu d'une existence dispersée, est une existence unifiée, une voie d'unité. Il y a quand même un petit paradoxe dans ta manière de le présenter, parce que cette existence unifiée, elle est en réalité une existence tout à fait décentrée, parce qu'elle est constamment à l'écoute et à l'écoute de ce qu'elle ne maîtrise pas, d'une altérité qui peut être l'altérité de l'autre avec un grand A ou des autres. Et donc, en réalité, c'est une unité paradoxal qui ne cesse de se défaire. Est-ce que tu es d'accord là-dessus ?
Je crois qu'on ne peut qu'être d'accord et je ne te soupçonnerai pas de faire un dualisme ruineux pour la pensée.
Oui. Est-ce que Élodie Moreau ou Michel Feydeau voudriez...
Non, moi, je peut-être rebondir sur la question qui a été posée de cette critique de l'immédiateté ou cette opposition tracée entre existence spirituelle et immédiateté, parce que je m'y suis arrêtée également et j'avais en image les disciples avec leur filet, le Christ qui passe et immédiatement ils le suivirent. Donc là, il y a bien une immédiateté. Et puis il y a les grains de blé semés qui lèvent immédiatement, mais qui se flétrissent immédiatement. Donc on a bien deux immédiatetés. Et moi, ce que j'avais relevé, mais peut-être trop rapidement, c'est que peut-être le discernement se jouait sur la présence, un présent qui n'est pas immédiat, voilà, le rapport à la présence. On a une immédiateté qui est vide ou une immédiateté qui est pleine en fonction de la présence et de l'attention, qui est aussi un point que vous relevez avec Simone Weil, qu'on y met.
Voilà. Oui, sur l'immédiateté aussi, je pense ce que Karl Rahner fait dire à Ignace de Loyola dans son petit livre Discours d'Ignace de Loyola, un jésuite ou aux jésuites de notre temps. À trois reprises, en effet, il fait dire à Ignace, j'ai fait l'expérience immédiate de Dieu, mais ça ne vient pas... tout au début, ça vient à des moments précis, ça vient au cœur d'une histoire. Il s'agit d'une expérience qui est évoquée comme nouvelle, comme un don pleinement gratuit de la part de Dieu, mais qui a été néanmoins préparée par tout un itinéraire d'hommes. Voilà. Et donc, ce n'est pas l'immédiat, le mauvais immédiat. Et puis, alors, deuxièmement, si on pense à l'autre texte qui était évoqué tout à l'heure, donc c'est dans les exercices spirituels, la notation 15, laisser celui qui donne les exercices spirituels doit laisser le Créateur se communiquer immédiatement à l'âme. Hein. La pointe, me semble-t-il, ça veut dire justement que le retraitant ne doit pas se laisser dicter sa décision ou son expérience par un tiers qui prendrait la place de Dieu, en quelque sorte, ou qui prétendrait prendre la place de Dieu. Justement, c'est là encore dans un sens très différent. L'immédiateté dont il s'agit, je pense, est prise ici dans un sens très différent de celui qui est dénoncé dans le livre de Henri par opposition à une existence authentiquement spirituelle. Et puis, j'ajoute un dernier mot sur la toute dernière question. Moi, je crois de fait que la voix, enfin, ça sort bien du livre aussi, c'est-à-dire que la voix chrétienne se nourrit de tout ce qui est offert, toutes les ressources qui sont offertes dans l'expérience humaine. Et on peut très bien dire aujourd'hui, fait partie de ces ressources, l'acquisition parfois de moyens qui aident un meilleur épanouissement de soi-même. C'est légitime, c'est tout à fait légitime et important. Mais moi, j'aime beaucoup la formule d'Henri. Chrétienne nous situe quand même centralement ailleurs. Centralement ailleurs, pourquoi ? Parce que ce qui me semble la signature de cette voie chrétienne, c'est justement le décentrement. Le décentrement. Je peux très bien accueillir les ressources dont je dispose dans la société pour chercher mon épanouissement personnel, pour être mieux moi-même, etc. Et c'est tout à fait légitime et infiniment respectable. Mais ce n'est pas encore le cœur de l'expérience chrétienne qui me semble se caractériser fondamentalement par cette capacité ou cette vocation à se décentrer pour autrui.
Sur l'immédiateté, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que il y a des immédiatés qui acceptent de se laisser médiatiser et d'autres qui ne l'acceptent pas. Et ça serait ça, disons, ce qui fait la différence entre les deux types d'immédiateté dont il était question. Non ?
Je suis très content d'entendre mes trois voisins. C'est très bien ce qu'ils disent. Là. On peut dire aussi que la voie chrétienne, je lis dans le premier chapitre, elle est communautaire. Elle est communautaire aussi, hein, pour dire non pas communautariste, non pas repliée sur elle-même, sur un groupe, mais communautaire au sens de tisser de relations, et en dehors, en son sein, enfin, voilà. Mais je crois que cette dimension dialogale, oui, communautaire, doit aussi être, voilà, doit être mise en valeur, parce que il ne s'agit pas d'individus ou d'aréolites, il ne s'agit pas d'atomes là, isolés, distincts. Non, c'est... elle est intrinsèquement communautaire, elle n'est pas associative. Ce n'est pas un syndicat d'individus liés par un intérêt. Ce qui les lie, ce qui les fait tenir ensemble, eh bien, c'est l'appel et c'est l'adresse. Enfin, c'est ce qui leur est adressé et ce qu'ils apprennent à adresser en retour, hein, aussi.
Est-ce qu'il y a telle ou telle autre question ou réaction ? Je pense qu'il y a des expériences immédiates qui acceptent après d'entrer dans des médiations qui vont du coup pouvoir se décliner sous de multiples formes et d'autres qui se refuseraient à ça et donc qui exigeraient de toujours rester à l'immédiateté. Et dans ce cas-là, on assiste à, disons, ce que dénonçait Henri dans son livre, c'est-à-dire c'est aussi des positions, des postures qui finalement n'entre pas non plus en vrai dialogue, hein, quand on est dans le refus des médiations. Hein.
Mais il y a place, bien sûr, pour un certain immédiat, pour une intuition, enfin une perception de la justesse, de la beauté, de la vérité, une perception de la relation juste, une perception de l'action juste, de la belle décision, enfin la décision belle et bonne. Voilà, tout cela ne veut pas dire que ce type d'expérience est impossible, mais cette expérience précisément, si immédiate soit-elle et si bonne immédiate soit-elle, est passée par a pris du temps. Voilà, elle n'est pas venue de rien. Elle n'est pas venue de rien. Hein, et peut-être que, voilà, j'aime bien dire que beaucoup de nos paroles souvent sont insignifiantes parce qu'elles n'ont pas pris le temps de naître, hein, mais la décision juste, la relation juste, ce qui est vrai, bon et juste, et qui peut se donner à nous comme expérience immédiate, cela vient de loin, voilà, cela vient de loin, de profond, et entraîne loin. Mais c'est autre chose que cette immédiateté par absence de silence, par absence de présence.
Vous dites à un moment donné, vous citez Leibniz, je crois, et vous dites... mais les catastrophes naturelles sont-elles vraiment naturelles par rapport à la responsabilité de l'homme, donc dans le problème du mal? Donc effectivement, on peut comprendre que dans le cas d'un tremblement de terre, ils auraient pu construire ailleurs. Mais faut-il chercher cette responsabilité humaine partout? Par exemple, dans le mal animal, je veux dire, quand on observe la nature, les animaux qui se dévorent entre eux, cette cruauté, que peut-on dire? Est-ce que la responsabilité humaine, je sais bien, c'est pas, vous avez laissé ouverte la question, si vous voulez, de cette responsabilité humaine, mais il y a une souffrance qui est extra-humaine, enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, voilà, par rapport à la souffrance, oui, de la nature, où l'homme ne peut pas être responsable, du moins directement, ou faut-il aller chercher plus loin, quand même, une responsabilité de l'homme dans le fait que cette nature est dévastée?
Là, évidemment, vous posez une question qui appellerait plusieurs phrases, plusieurs paragraphes, hein, donc c'est difficile de répondre. Disons, pour faire peut-être trop bref, je parlais de la responsabilité de l'homme. Alors, dans ce chapitre sur le mal, il est question de la question du mal par rapport à l'existence de Dieu. Hein, donc, ce n'est pas une analyse simplement éthique, hein, de la question du mal, c'est question du mal comme objection à l'existence de Dieu. Et je disais, dans un premier temps, avant d'accuser Dieu trop vite, interrogeons-nous sur la responsabilité de l'homme. Voilà. Dans un premier temps. Hein, et c'est là que, je disais, les catastrophes naturelles, entre guillemets, dans cette nature, il y a beaucoup de culture et d'humanité, et d'inhumanité surtout, qui est engagée. Je disais, c'est un premier temps de la question, et ça ne suffit pas. Hein. D'où l'invitation à vraiment à considérer que, disons, la dépossession absolue, voilà, dans laquelle on se trouve, hein, dans cette expérience du mal, mais combien cette dépossession absolue nous renvoyant aussi au plus profond de nous-mêmes, nous renvoie à ce dont peuvent émerger des ressources de vie et des ressources d'affirmation. Donc la question, disons, la réflexion sur le mal opère, comme disait Michel Feydeau, plusieurs déplacements. Elle ne peut pas se limiter à la question de la responsabilité. Alors, de fait, je n'envisage pas la question de la nature, hein, puisque là, c'est le point de vue de l'humanité par rapport à Dieu, hein, que je pose directement. Voilà.
Si vous voulez, on peut terminer avec les dernières lignes du livre de Henri Lot. Voilà. On aura sans doute entendu à travers tout cela qu'il s'agit de donner de la profondeur à l'existence. Rechercher ce qui élève, ce qui agrandit les espaces de vie. Aimer ce qui suscite de l'ampleur en toute chose, des compréhensions et des liens renouvelés. L'aspiration à une bonté sans limite. L'existence spirituelle s'enracine dans des convictions. Elle prend corps dans l'histoire. Ses désirs ou ses ambitions apprennent ce qu'il en est des défis du réel. Ils ne se perdent pas dans l'imaginaire des rêves. L'existence spirituelle est forte, non de toute puissance, mais de cette heureuse confiance qu'un chemin peut se tracer qui ne finit pas en impasse. Alors, la suite des jours ne s'inquiète pas du lendemain. Elle se vit simplement, attentive à ce qui est, attentive à ce qui doit être. Elle s'offre à chacun. Selon la voie chrétienne, elle est vécue dans sa totalité comme une réponse à Jésus, le Christ. Par ses actes et ses pensées, elle répond à quelqu'un qui l'appelle. Elle répond par sa fidélité. Elle répond par le désir que soient purifiées ses infidélités. N'aurait-elle pas une manière de dire la sainteté ? L'existence est toujours imparfaitement spirituelle, mais cela ne l'arrête pas. C'est en le reconnaissant qu'elle est la plus vraie, quand elle guette l'aurore.
Voilà. Voilà, merci.
Merci beaucoup à Élodie Moreau, Michel Feydeau et Henri Lot. Merci beaucoup aussi à vous. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de soirée.
Voilà. Un grand merci à vous pour votre présence ce soir.
Merci beaucoup.